Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est l'un des trois grands patriarches de la Bible, une grande figure s'il en est, qui a pourtant eu rien moins que quatre femmes, a usurpé la bénédiction de son père et obtenu son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Un personnage complexe donc, surtout connu pour son fameux combat avec l'ange, largement représenté par des peintres illustres, une allégorie du combat spirituel de cette lutte parfois presque au corps à corps avec Dieu. Voilà cette émission Vivante Église ce matin sur le combat de Jacob avec le père Jean-Michel Poirier, exégète et maître de conférence à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales au sein de l'Institut catholique de Toulouse, pour ceux qui ne connaîtraient pas, en vue d'une prochaine session donc intitulée Les combats de Jacob, les 27 et 28 avril prochains à l'IERP. Bonjour.
Bonjour.
Alors avec vous, on va faire connaissance avec Jacob, partons du principe qu'on ne le connaît pas et de tout ce qu'il a à nous dire. Alors je me disais évidemment que pour commencer, il fallait introduire ce personnage. J'ai donc dit c'est un des trois grands patriarches donc dans la Bible avec Abraham et Isaac. Comment vous nous le présenteriez pour commencer avant qu'on détaille un peu davantage sa vie ?
Effectivement, lorsque Dieu se présente à un certain nombre de personnages bibliques, dont Moïse, il se présente comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors, dans la seconde partie du livre de la Genèse, Jacob nous est présenté comme étant le fils d'Isaac et lui-même étant le fils d'Abraham. Donc on a ces trois grands patriarches qui marquent notre mémoire, enfin la mémoire de celui qui lit la Bible, parce que très souvent on les retrouve ensemble, Abraham, Isaac, Jacob. Alors Abraham, il est bien connu des chrétiens. Saint Paul en parle souvent. Isaac, il est un peu une préfiguration du Christ pour les pères de l'Église, parce qu'il est présenté en offrande par son père, il est sacrifié en portant le bois, etc. Jacob, lui, a jamais été très populaire chez les chrétiens, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Donc Jacob est l'un des deux fils d'Isaac, puisqu'Isaac, avec sa femme Rebecca, a des jumeaux, Ésaü et Jacob. Alors Ésaü sort le premier et Jacob sort le talon. C'est même d'ailleurs l'une des étymologies qui nous est proposée par la Bible. Il tient le talon de son frère au sortir du ventre maternel, il le talonne, on dirait un talonneur dans notre sud-ouest, on comprend ce que ça veut dire. Et donc il naît le second et Ésaü, lui, est l'aîné et bénéficie, selon le droit biblique, d'un certain nombre d'avantages, d'une certaine primauté, qui est lié notamment à des droits qu'on appelle la primogéniture, donc de son rang de naissance.
Alors est-ce que vous pouvez nous dire, l'écriture parle un petit peu de son tempérament et de son caractère avant qu'on décrive peut-être la grande épopée de sa vie à grands traits et qu'on s'arrête après sur quelques points saillants. Il est dit de lui, à la différence de son frère qui avait l'air d'être de prime abord très, très viril, très décidé, que c'était un garçon, on va dire, un peu discret et casanier, c'est ça ?
Ah oui, casanier, le terme est excellent parce qu'on nous dit qu'il était près des tentes de sa mère, de sa femme, enfin des femmes, pour dire en langage un peu vulgaire contemporain, il était dans la jupe de sa mère, alors que son frère, lui, est un homme viril qui bat la campagne, qui va à la chasse, et d'ailleurs le père Isaac a une nette préférence pour Ésaü, alors que la mère Rebecca, elle chouchoute un petit peu son petit Jacob. Enfin, quand je dis petit, en fait, en réalité, ils sont effectivement jumeaux, mais ils ne se ressemblent pas du tout. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle des dizygotes. Même l'apparence physique fait qu'ils sont complètement différents. Et effectivement, vous avez des traits de caractère qui les opposent. L'un est effectivement toutes les caractéristiques de l'homme viril selon les canons de l'époque, bien sûr.
C'est-à-dire qu'au départ, il a rien d'un patriarche. On y reviendra, mais en tout cas, c'est déjà
voilà,
ce qu'on
peut
dire.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'Ésaü naît avec
l'idée qu'on se fait.
Voilà, Ésaü naît avec apparemment toutes les qualités pour être un patriarche. Et de fait, il sera un patriarche, le père de ce qu'on appelle les Édomites. C'est-à-dire c'est un peuple qui vivait au sud d'Israël. Ça correspondrait en gros au sud de l'État actuel d'Israël et du sud de la Jordanie, la terre d'Édom, enfin le territoire d'Édom. Alors que Jacob, il va devenir Israël, il va être le patriarche Israël, il va changer de nom à un moment donné, plutôt il va recevoir de Dieu un nouveau nom qui est le nom d'Israël. Mais rien ne le prédispose à cela effectivement à la naissance et ni même dans sa jeunesse.
Alors, c'est difficile, évidemment, on ne va pas raconter toute sa vie, quoi qu'on a un petit peu de temps, mais si on devait la parcourir à gros traits, alors je vais essayer de faire un résumé très rapide et puis vous allez compléter. Donc, ses deux frères grandissent, il y a une rivalité probablement qui tient en partie au caractère ou aux préférences des parents. Toujours est-il qu'il y a deux faits saillants dans sa jeunesse. La première, c'est donc qu'il usurpe le droit d'aînesse de son frère contre un plat de lentilles, vous allez nous raconter.
Il l'obtient en échange.
Ensuite, il obtient la bénédiction de son père.
Là, pour le coup, il l'usurpe.
Voilà, sur les conseils de sa mère, il se déguise pour se faire passer pour son frère. Je vais très vite, hein, puis vous compléterez. Oui. Et puis donc, il est obligé de fuir. Donc, on dit qu'il fuit donc chez Laban, qui est un parent.
Qui est le frère de sa mère.
Voilà, qui est dans un pays qui s'appelle Padar Aram. Là-bas, il prend deux épouses. Puis il aura aussi des enfants avec deux servantes. Bref, pour un patriarche, ça fait un peu désordre.
Pour avoir en grosso modo, dans un espace de 10 années, avoir 12 enfants, vous voyez.
12 enfants et 4 femmes, donc. Hein.
Oui, avec 4 femmes différentes.
Voilà, il devient. Il finit par s'enrichir et puis il finit par revenir, en fait, sur la terre de ses pères, où il se réconcilie d'une certaine. Enfin, oui, il se réconcilie avec Ésaü. Alors, comment vous compléteriez ce grand tableau et quel point saillant vous retireriez qu'il faut avoir en tête quand on parle de Jacob ?
Alors, il y a deux grands textes qui sont très connus, qui sont un peu à la jointure de grandes périodes de sa vie. Lorsqu'il quitte les tantes paternelles et maternelles pour aller chez son oncle se réfugier, parce qu'il part en exil, il a une première grande expérience de rencontre avec Dieu. Et c'est là où il a une vision avec une échelle où des anges, des messagers divins, montent et descendent sur la rampe, sur l'échelle. Souvent, on a interprété ça comme une échelle, et ça a été très souvent représenté dans l'histoire de l'art. Ça a servi également de modèle pour l'échelle des vertus, l'échelle mystique, etc. Donc, c'est la première grande expérience, je dirais, de rencontre personnelle avec Dieu. Et Dieu va se manifester à lui, va lui parler, va lui dire qu'il sera toujours avec lui et que sa descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Donc, c'est un petit peu une réitération de la promesse faite à Abraham.
Est-ce qu'on peut juste décrire ce qui s'est passé pour ceux qui ne connaissent pas bien? C'est-à-dire que c'est donc, on appelle ça le songe de Jacob, c'est le moment où il fuit donc vers.
C'est le songe à Bethel, c'est-à-dire qu'en fait, il s'arrête alors qu'il est en train de fuir et qu'il est seul, isolé. Il s'arrête tout simplement pour un bivouac pendant la nuit, là où le soleil, à la fin de la journée, si vous voulez, le soleil est tombé, donc il faut bien qu'il s'arrête quelque part. Il met des pierres autour de sa tête.
Il est en fuite, donc.
Il est dans une situation, c'est la première fois quand même qu'il quitte les tentes, hein, c'est-à-dire la maison, vous disiez qu'il était casanier tout à l'heure. Hein. Et il se trouve dans une situation de fragilité, de faiblesse. Et c'est là où, pendant la nuit, il va avoir un songe. Et c'est vrai que dans la Bible, on voit assez régulièrement des révélations divines qui s'opèrent pendant la nuit. Freud était un fils de la Bible et savait bien qu'il y a des choses qui se passent pendant notre sommeil qui souvent sont décisives et sont beaucoup plus profondes que ce qu'on vit à l'état éveillé. Et donc là, il va avoir cette vision, effectivement, d'une rampe qui part de la terre et qui touche jusqu'aux cieux, avec des messagers divins qui montent et descendent dessus. Et puis finalement, le personnage divin qui va se manifester à lui et qui lui dit qu'il est le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac, qui va lui parler et qui lui dit que la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Et ta descendance sera pareille à la poussière de la terre et tu te répandras aux quatre coins de l'univers, et je suis avec toi et je te ferai revenir sur cette terre. Donc c'est vraiment une première manifestation de Dieu où à la fois Dieu lui redit des promesses déjà faites à Abraham et en même temps il y a une relation personnelle qui s'engage et une relation de protection, c'est-à-dire que désormais Jacob n'est pas seul, mais ce Dieu dont lui avait pu lui parler ses pères, éventuellement sa mère, aussi, eh bien ce Dieu se manifeste à lui comme étant celui qui l'accompagnera tout au long de son existence. Ça, c'est la première grande expérience. Hein. Et puis l'autre expérience qu'il fait...
Excusez-moi, juste, je reviens sur cette expérience, qu'il y a une ou deux choses quand même qui sont frappantes, moi qui m'ont frappé. La première, c'est qu'en fait, Dieu se manifeste à lui alors que, il vient de... pour prendre un un terme enfin très très banal, il vient de faire une énorme bêtise d'une certaine manière, puisqu'il vient d'usurper en fait la bénédiction de son père, il fuit, et Dieu se manifeste malgré tout à lui. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a posé question, vous allez me dire ce qu'il faut en penser. Et puis l'autre chose, c'est que il n'était pas, semble-t-il, alors vous l'avez dit un petit peu, pas spécialement croyant, puisque à la fin, en fait, il fait cette promesse, si je reviens sain et sauf chez mon père, alors Yahvé sera mon Dieu. J'ai l'impression qu'avant, il était quoi, en fait? C'était un peu un adolescent, ou c'est ce qu'il faut, c'est ce que ça figure?
Il y a deux choses différentes. À l'époque, tout le monde est croyant. La question n'est pas de savoir si on est croyant ou pas, c'est de savoir dans quel Dieu on croit. Et si Dieu se manifeste à lui en lui disant au début, je suis Adonai, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac, ton père, c'est que ça fait sens pour Jacob. C'est-à-dire qu'en fait, comme souvent dans nos cultures chrétiennes, la première approche que l'on a de Dieu, c'est celle que l'on a reçue, alors des parents, des catéchistes, éventuellement des grands-parents, voire même des arrière-grands-parents, pourquoi pas, qui nous ont parlé de Dieu. C'est-à-dire que la première, souvent, connaissance que l'on a de Dieu, c'est une connaissance qui passe par d'autres personnes. Et jusqu'alors, même si le texte de la Genèse ne nous en parle pas, il le sous-entend, Jacob a entendu parler de Dieu, il s'est sans doute associé aux actes cultuels de ses parents. Son père, on le voit, invoquer le nom de Dieu, construire des autels à ce Dieu. Il n'y a pas de raison de penser qu'il n'ait pas associé, bien sûr, ses enfants à cette foi-là. Mais là, c'est quelque chose de différent. C'est l'expérience de la rencontre personnelle. C'est-à-dire que tout d'un coup, Dieu n'est plus celui du père ou dont le père a parlé, ou dont les pères ont parlé, mais il est celui qui lui parle à lui. Et qui lui dit, moi je suis Adonai et c'est à toi que je parle en quelque sorte, c'est à toi que je me réveille. Donc ça c'est, si vous voulez, c'est cette expérience-là. Donc on ne peut pas dire qu'il n'est pas croyant, mais c'est le début d'une expérience vraiment personnelle de foi, dirait-on en termes contemporains. Et ensuite vous avez mentionné le vœu, si Dieu est avec moi, etc. Alors, c'est pas tellement, une condition qu'il pose à sa foi, c'est plutôt un engagement qu'il prend. C'est-à-dire que lorsque Dieu m'aura fait revenir, à ce moment-là, dans ce lieu-ci où il vient de se manifester, il y aura un sanctuaire et on versera la dîme, etc. Alors le sanctuaire en question, c'est le sanctuaire de Bethel. Alors Bethel, si je traduisais en français, c'est un peu un diminutif de Beth Elohim, maison Dieu. Voilà, il y a d'ailleurs des lieux qui s'appellent parfois en France Maison Dieu. Donc c'est Bethel, c'est Maison Dieu. Et en fait, c'était un grand sanctuaire de l'Israël ancien. Et donc on peut penser que dans ce sanctuaire-là, on racontait l'histoire du patriarche Jacob. Parce que dans tous les sanctuaires, il y a toujours une histoire. Si vous allez à Lourdes, on va vous raconter l'histoire de Bernadette. Comment la Vierge s'est manifestée à Bernadette. Dans tous les sanctuaires que l'on a quelque part dans le monde, il y a toujours une histoire qui raconte pourquoi un sanctuaire à cet endroit-là. Et c'est souvent lié à une manifestation d'un personnage, de Dieu ou de la Vierge, ou voilà, à quelqu'un qui a fondé là un sanctuaire. Et c'est le cas ici à Bethel, on racontait l'histoire de Jacob.
Et sur le premier point, en fait, le fait que Dieu se manifeste à lui alors qu'il est en fuite et qu'il vient quand même, d'une certaine manière, de mentir à son père.
Alors ça, c'est le jugement moral que nous portons.
Oui, enfin, c'est...
Et alors, c'est vrai, ceci dit, c'est vrai que ça a posé des difficultés. Par exemple, Philon d'Alexandrie, qui est un juif qui opère au début de notre ère et qui essaie de parler de la foi d'Israël à des Grecs en langage de grec, il va dire, pour justifier un peu, il va dire, mais en fait, Dieu avait choisi Jacob. Et lorsque Isaac voulait transmettre la bénédiction dévolue au fils aîné à Ésaü, en fait, c'était Isaac qui se trompait, puisque Dieu voulait que cette bénédiction, en fait, soit donnée à Jacob. Donc finalement, Jacob, c'est vrai qu'il s'est déguisé en Ésaü, c'est vrai qu'il a trompé son père, mais en réalité, c'était Isaac qui se trompait, c'est ce que dit Philon d'Alexandrie.
D'accord,
et le fait, dans cette scène qui précède le départ en exil, on nous présente un Isaac qui est affaibli et dont on nous dit qu'il ne voyait plus bien.
Voilà, il faut juste rappeler, parce qu'on ne l'a pas dit, donc Isaac, d'une certaine manière, convoque son fils aîné Ésaü, lui demande d'aller chasser, et lui dit, quand tu reviendras de la chasse, je te bénirai, ce qui est une manière, en fait, quoi, de formaliser quoi, une forme d'héritage, c'est ça ou de...
Oui, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il y a à la fois ce qu'on appelle la primogéniture, donc qui sont des droits, y compris très matériels, une double part d'héritage, etc. Et ça, Ésaü l'a déjà... revendu en quelque sorte, ou échangé, revendu à Jacob, moyennant ce fameux plat de lentilles. Et le texte biblique dit Ésaü méprisa la primogéniture, mais il y a aussi la bénédiction effectivement du père. Et tout à fait à la fin de la Genèse, on verra Jacob bénir ses 12 fils. Et c'est un des grands chapitres du livre de la Genèse. Donc si vous voulez, c'est la bénédiction du père avant de mourir, puisqu'on nous dit au chapitre 27 que Isaac, sentant sa fin arriver, veut bénir son fils. La bénédiction du père, ou que transmet le père juste avant sa mort, a une importance décisive. Alors c'est pas les droits matériels, mais si vous voulez, c'est plutôt une mission spirituelle qui est confiée par le père, normalement au fils aîné. Mais c'est vrai que dans le livre de la Genèse, on va voir à plusieurs reprises l'héritage en quelque sorte spirituel passé non pas du père au fils aîné, mais au second des fils. C'était déjà le cas d'Isaac d'ailleurs, puisqu'il a un frère aîné, Isaac, qui est Ismaël.
Voilà, en tout cas, donc Jacob, sa mère prépare le repas, Jacob se déguise, se met une peau, une peau de bête sur la peau.
Oui, parce qu'il faut expliquer que
son frère était très velu.
Son frère est même né hyper velu, voilà. Alors que lui, il est glabre. Et donc, pour se faire passer pour son frère, mais ça, c'est sa mère qui a l'idée de le faire revêtir d'une peau de chevreau, oui.
Voilà pour un rapide résumé de sa vie. On va s'arrêter sur d'autres passages, entre autres donc sur les combats de Jacob auxquels vous êtes sensibles et qui peuvent nous parler à tout à chacun. Et puis évidemment, à la fin, sur le fameux combat avec Dieu ou avec l'ange, c'est selon. On fait une première pause musicale et on vous retrouve tout de suite après.
présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église ce matin donc sur le combat de Jacob avec le père Jean-Michel Poirier, exégète et maître de conférence à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales, où se tiendra prochainement une session intitulée « Les combats de Jacob les 27 et 28 avril prochains ». Alors avant qu'on parle d'un sujet auquel vous êtes sensible au regard de sa vie, qui sont ses différents combats et qu'il dise quelque chose de profond pour nous tous, vous vouliez commencer par finir de parcourir sa vie. Alors on s'est arrêté, si je ne me trompe pas, à son arrivée donc chez un de ses parents, Laban, où là-bas il épouse deux de ses filles, successivement.
Alors il faut expliquer que en réalité, lorsqu'il arrive chez son oncle pour faire un mariage, c'est une de ses missions, faire un mariage à l'intérieur de la grande famille du clan, il trouve la belle Rachel et il en tombe tout de suite amoureux. Et il va demander à Laban la main de Rachel, mais il était d'usage qu'il devait fournir une dot. Et comme il arrive sans rien, sans un sou en poche, dirait-on, eh bien il va travailler 7 ans pour payer la dot. Et au bout de 7 ans, il va pouvoir épouser enfin Rachel. Et pendant la nuit de noces, en fait, au lieu de lui donner Rachel, on lui refile, si je puis dire, sa sœur aînée. Par Rachel, c'était elle aussi la seconde. Et on va lui refiler sa sœur aînée qui s'appelle Léa. Et lorsque le matin, il va s'apercevoir du changement, Laban va lui dire, mais il n'est pas d'usage chez nous de donner la cadette avant l'aînée. Donc c'est l'histoire de l'arroseur arrosé, parce que lui qui est le cadet et qui a pris la bénédiction dévolue au fils aîné, là on lui dit, ici l'aîné passe avant le cadet, ou plutôt l'aîné, eux, passe avant la cadette. Et alors, donc, il a épousé Léa, il ne peut pas revenir en arrière. Alors Laban lui dit, mais écoute, travaille 7 ans de plus pour moi et je te donne aussi Rachel. Et c'est pour ça qu'il se retrouve, si je puis dire, avec deux femmes, alors qu'en réalité, il n'en aimait qu'une seule. Alors, il va y avoir évidemment une compétition entre les deux femmes, et chacune d'entre elles étant nantie d'une servante, il y a une espèce de compétition pédiatrique assez amusante d'ailleurs, puisque l'importance, si vous voulez, de l'épouse va tenir aussi à qui c'est qui enfante la première et qui c'est qui a le plus d'enfants.
Plus de garçons aussi.
À ce jeu-là, c'est Léa qui, de loin, gagne la partie, hein, puisqu'elle sera parente de 5 fils. Et alors, quand elles traversent des périodes de stérilité, elles ont recours, comme d'ailleurs ça avait été le cas pour la mère d'Ismaël, elles vont avoir recours à leur servante qui va prendre en quelque sorte leur place. Et c'est ainsi que là-bas, il va avoir en très peu de temps 11 fils, plus une fille qui s'appelle Dina. Et le 12e fils ne naîtra que l'une fois qu'il sera revenu sur la terre. Et Rachel, la belle Rachel, la Rachel l'aimée, n'a en tout que 2 enfants. Un fils qui va devenir un peu le fils préféré d'ailleurs de Jacob, qui s'appelle Joseph.
Qu'on retrouvera après, oui.
Qu'on va retrouver dans la dernière partie du livre de la Genèse, qui est le dernier enfant à être né là-bas en exil. Et puis il y aura le petit dernier qui va arriver donc une fois qu'ils seront revenus. Et d'ailleurs Rachel va mourir en couche en donnant la vie à Benjamin. D'où d'ailleurs le nom de Benjamin, le Benjamin de la famille, c'est le dernier de la famille.
Alors si vous deviez pour le coup résumer, mais vraiment à gros traits, ce qui suit pour qu'on ait son histoire en tête.
Après la naissance des enfants, ou sans doute plus ou moins concurremment, effectivement il se développe un troupeau, on y a recours à toutes sortes de stratagèmes là aussi. Et il va repartir, d'ailleurs à l'insu de Laban, il va repartir avec cette fois-ci ses femmes, ses enfants, ses troupeaux, et puis la domesticité qui va vers. Et donc là, il a vraiment pris la stature d'un vrai patriarche. Et il va rencontrer sur ce chemin du retour, il va s'apprêter à rencontrer son frère Ésaü, dont il apprend qu'il vient à sa rencontre. Et comme ils se sont quittés en fort mauvais termes, puisqu'il avait pris à Ésaü non seulement la primogéniture, mais la bénédiction dévolue au fils aîné, la primo-bénédiction, Ésaü avait eu le projet de faire la peau à son frère une fois que le père serait mort. Et donc, il peut craindre, lorsqu'il entend qu'Ésaü vient à sa rencontre, en plus entouré de 400 hommes, il peut craindre qu'il vienne l'affronter. Et en fait, on a une très belle histoire de réconciliation. C'est une des très belles histoires de réconciliation de la Bible. En fait, Ésaü a lui aussi pas mal changé, a laissé tomber ses sentiments vindicatifs à l'égard de son frère.
Il va être extrêmement généreux.
Et entre les deux, il y a le fameux combat de Jacob sur lequel on va revenir ensuite. Et puis alors, après, Il revient, il a une nouvelle révélation à Bethel, et là s'achève le cycle de Jacob en quelque sorte. Après, il y a quelques petits épisodes, mais Jacob, lui, on va le retrouver dans la dernière partie du livre de la Genèse, qui est dévolue à l'histoire de l'un de ses fils, Joseph, et de ses frères. Et Jacob est toujours là, plus ou moins au début, et on va le retrouver à la fin, et il meurt en Égypte, en fait, Jacob.
Alors, vous êtes sensible à quelque chose qui ressort évidemment de la vie de cet homme, comme d'Abraham aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est un homme qui traverse un certain nombre de combats, et vous trouvez que c'est un certain nombre de combats qui peuvent être parlants pour nous tous, qui sont comme des archétypes peut-être. Le premier, c'est un combat à l'intérieur de la famille. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez par là?
Et pour introduire un petit peu, Philon d'Alexandrie, toujours lui, comparant les trois grands patriarches, disait que le propre de Jacob, c'est que il devenait ce qu'il était en passant par une série de combats. Il l'appelle l'athlète spirituel. C'est-à-dire que rien ne lui est donné d'emblée. Il doit tout conquérir, en quelque sorte. Et c'est un vrai voyage initiatique qu'il fait. Et effectivement, les premiers combats, il les livre au sein de la fratrie, de la famille. Et effectivement, c'est assez frappant de voir que les premiers chapitres du cycle de Jacob se passent à l'intérieur de la cellule familiale. On n'entend pas guère parler de serviteurs, ou alors très, très brièvement. Et tout se passe entre le père Isaac, la mère Rebecca et les deux fils, Ésaü et Jacob. Et Ésaü doit d'abord, pense conquérir son identité propre contre son frère, qui semble avantagé par la nature.
Jacob, vous voulez dire Jacob.
Oui, pardon, Jacob veut conquérir son identité contre Ésaü, qui est avantagé à la fois par la nature et qui en même temps est préféré par le père. Et là, on retrouve toutes sortes d'éléments que nous tous, nous vivons. C'est-à-dire que notre personnalité, pour la plupart d'entre nous, elle se forge d'abord au sein de la cellule familiale. Alors, pour peu qu'on ait des frères et des sœurs, souvent, c'est à la fois avec une attirance, une solidarité, mais aussi une concurrence, une confrontation. Et puis, lorsqu'il y a plusieurs frères et plusieurs sœurs, inévitablement se pose la question de l'amour préférentiel des parents pour l'un ou pour l'autre. Combien de fois est-ce que j'ai pas entendu comme prêtre cette fois-ci telle personne me disant ma mère a toujours préféré ma sœur. Et je pense à des personnes âgées qui me disaient ça et qui à 70 ou 80 ans portaient encore comme un poids le fait d'avoir été préféré par ou le père ou la mère. Et là on voit clairement, ça nous est dit clairement, Isaac préfère Ésaü parce que Ésaü lui rapporte du gibier et Isaac adore manger de la viande de chasse, alors qu'on nous dit que Rebecca aimait Jacob. C'est un amour qui n'est pas motivé là. Elle aimait Jacob simplement. Et donc on voit que dans cette famille, eh bien, il y a des préférences et inévitablement il y a des conflits, il y a des luttes.
Et alors ils s'en sortent d'une certaine manière en combattant, ou c'est ça qu'il faut retenir, ou c'est...
Ah bah c'est-à-dire qu'il combat même, le texte nous dit même qu'il combattait déjà dans le ventre maternel. Alors à l'époque il n'y avait pas d'échographie, donc elle ne savait pas qu'elle portait des jumeaux. Et en fait il y a une espèce de compétition qui se joue à l'intérieur même du ventre maternel, ce qui fait que la pauvre Rebecca ne sait plus à quel saint jouer, si je puis dire. Elle va aller consulter d'ailleurs Dieu, et c'est Dieu qui va lui délivrer un oracle prénatal, donc avant la naissance, qui lui dit qu'elle porte en son sein deux peuples, deux nations qui seront amenés à se séparer. Et la dernière phrase est assez mystérieuse: le puissant servira le chétif. Alors on peut le comprendre comme l'aîné servira le plus jeune.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous nous dites que, comment dire, que Jacob, la particularité de Jacob, c'est de s'être construit ou d'avoir conquéri d'une certaine manière son identité à force de combat, là par exemple dans le cadre du cercle familial, en quoi ça peut nous parler à nous, et quel est comment il s'en est sorti d'une certaine manière par le haut en combattant?
Bon, je ne sais pas s'il s'en sort par le haut, parce qu'en fait il pense, avec l'appui de sa mère. Effectivement, à la fin du chapitre 27, on a l'impression qu'il a tout conquis, puisqu'il a réussi à acheter à son frère contre un plat de lentilles les privilèges du fils aîné. Il a reçu la bénédiction normalement dévolue au fils aîné en se faisant passer pour son frère, auprès de son père. Et donc apparemment, il a tout conquis. Sauf qu'il a contre lui la haine de son frère, qui pousse sa mère à l'envoyer au vert, si je puis dire, se mettre au vert dans la famille de sa mère. Et Isaac quand même, malgré tout, va bénir Jacob avant de partir, mais Et puis, qu'est-ce que le lecteur, qu'est-ce que nous, on en pense de ça? Parce que c'est un menteur. C'est un menteur, c'est un trompeur. C'est vrai qu'il a acquis tout ça, mais est-ce que c'est de bonne manière? Est-ce que c'est de bonne façon? Est-ce que c'est conforme à une certaine morale? Voyez, vous-même, vous posiez la question tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est pas simplement la morale chrétienne, mais déjà par rapport à la morale biblique, Jacob, il a acquis des choses, mais au nom de quoi et de quelle façon? Et on peut se poser la question, est-ce que Dieu approuve ça ou pas? Et ce qui est intéressant, c'est que le texte biblique ne vient pas nous dire celui-ci c'est le bon, celui-ci c'est le méchant. Et on pourrait penser que Ésaü est le méchant, mais en réalité, Ésaü est plutôt bien vu par le texte biblique. Donc vous voyez, les textes bibliques nous renvoient un petit peu à nous-mêmes et nous disent « mais toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Il ne nous dit pas « voilà ce qu'il faut penser, mais toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Et il nous renvoie à nos propres... Et du coup, ça nous renvoie à nos propres expériences, tout dépend de ce que vous avez vécu. Par exemple, vous, Emmanuel Pelage, je ne sais pas, mais je ne vais pas vous interroger maintenant à l'antenne, mais ça vous renverrait « qu'est-ce que vous avez vécu dans votre enfance ?» Et ça comment est-ce que vous avez vécu les relations avec vos parents, avec vos cousins, avec vos frères et sœurs, si vous en avez, etc. Voilà.
Et ça nous renvoie évidemment aussi à l'image qu'on peut se faire de Dieu. Alors l'autre combat,
oui, c'est ça, tout à fait.
L'autre combat, c'est donc chez, que vous l'avez souligné, c'est chez Laban, puisque donc il travaille 7 ans pour cet homme, pour avoir la main de...
Oui, il a travaillé même plus que pour... Il travaille 14 ans pour payer
14
les...
14 ans pour payer les deux femmes, et continue après, de travailler après pour elle.
Et alors après, il a un CDI pour se constituer un troupeau, parce que jusqu'alors, il était le berger de son beau-père.
Et il est dit qu'il travaillait dans des conditions assez difficiles. Alors, est-ce que,
ah oui, après alors, il se plaint, alors c'est assez
amusant. Parlez-nous de ce combat et de ce qu'il a à nous dire aussi.
C'est-à-dire que, après je ne vais pas le détailler ici parce que ça serait trop long, il faudrait qu'on aille regarder le texte, mais c'est ce qu'on fera pendant la session. Mais c'est assez drôle, enfin pas assez drôle, mais c'est très actuel là, parce qu'il est question de conditions de travail, il est question d'exploitation du travailleur ou d'exploitation économique.
C'est ce qu'il dit d'ailleurs.
Des droits, voilà exactement, des droits de l'ouvrier à l'égard du patron. Il y a aussi une confrontation avec non seulement Laban, mais le clan des Araméens qui est autour de Laban. C'est un travailleur immigré, Jacob, qui se fait plus ou moins exploiter par son beau-père, qui essaie de le retenir, alors qu'il ne veut pas le renvoyer, pour le coup, mais qui, au contraire, essaie de tout faire pour le retenir, parce qu'il a une main-d'œuvre qui fonctionne plutôt bien et à bas prix.
Excuse-moi, je cite un passage. « Voici 20 ans que je suis dans ta maison, je t'ai servi 14 ans pour tes deux filles et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire.
Voilà. » Voilà, exactement. Alors oui, il y a des questions de changement de salaire. Alors, donc là, je rentrerai dans la technique, si vous voulez, lors de la session. Mais vous voyez que toutes ces questions sont des questions qui sont encore aujourd'hui, bien sûr, d'actualité. Hein. Quel est le bon salaire? Pourquoi est-ce que je travaille? Pour qui? Et où est la justice? Il y a une question de justice sociale hein, dans cette histoire-là.
Alors on pourrait citer d'autres passages, mais ce que vous vouliez souligner, c'est que donc ce Jacob qui était parti, on va dire, handicapé d'une certaine manière par la vie, puisque naturellement, en fait, sa nature faisait qu'il n'avait pas la faveur de son père, presque, il finit par devenir un patriarche à force de combattre. Alors en quoi c'est un archétype qui peut nous parler, c'est-à-dire que Dieu bénirait les plus chétifs à force de combat
Non, mais dans le petit tract présentant la session, j'ai repris un aphorisme d'Héraclite d'Éphèse, un penseur grec, hein, qui dit « ce qui est contraire est utile, ce qui lutte forme la plus belle harmonie, tout se fait par discorde ».
Alors expliquez.
Alors, on pense souvent que les choses devraient toujours se passer de manière lisse. La vertu devrait être reconnue, le travail récompensé, etc., etc. Et en réalité, ce que nous montre la vie, c'est que ça fonctionne pas comme ça. Alors peut-être qu'on pourrait rêver que ça fonctionne différemment, mais de fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors de fait, il y a des configurations qui sont plutôt favorables pour certaines personnes, où tout leur réussit, comme on dit. Et puis vous avez d'autres personnes où il faut que les positions ne leur sont pas offertes, elles doivent les conquérir. Et c'est un petit peu ce type-là que représente Jacob, qui est quand même la majeure partie de l'humanité. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut souvent combattre, il faut se confronter. Alors se confronter aux autres, se confronter à soi-même, parce qu'on pourrait aussi lire l'histoire de Jacob, ses combats de Jacob, comme étant un combat avec lui-même.
Vous disiez d'ailleurs, c'est
et avec son identité.
Une forme de combat initiatique, en fait, ou d'histoire initiatique.
C'est tout à fait une histoire initiatique, et c'est aussi, donc, il y a la dimension de combat avec soi-même. Et on va en parler tout à l'heure, ce qui va être révélé aussi, c'était un combat avec Dieu. Et donc, même au niveau de la foi, même au niveau spirituel, les choses se font. Alors, c'est vrai qu'on pourrait souhaiter que ça s'opère autrement. Mais de facto, ça se passe comme ça. Alors, la vie est difficile.
Voilà,
et la vie est un combat.
C'est la fine pointe que vous vouliez dire. C'est-à-dire que, de fait, il faut. Ce que ça peut dire à tout à chacun, c'est d'accepter en fait cette réalité que la vie est un combat et chose qui n'est pas du tout évidente. En fait, on vous apprend pas ça quand vous êtes petit. On vous dit pas. Enfin, il paraît qu'autrefois c'est ce qu'on disait. Certaines grand-mères disaient la vie est un combat, mais on en rit en fait aujourd'hui un petit peu. Or, il y a quelque chose de très sage là-dedans.
Je crois que c'est une grande sagesse. Et on essaie de nous faire croire parfois que les choses devraient être simples, que par je ne sais quel coup de baguette magique et par exemple par la foi. Tout d'un coup, les difficultés devraient s'aplanir ou être aplanies. Il suffit de regarder l'Évangile pour voir que la foi ne rend plus fort face aux difficultés, mais ne fait pas disparaître ni les difficultés ni les obstacles. Et on doit s'y affronter, oui.
C'est-à-dire que, du coup, même dans la vie chrétienne, en fait, à un moment, il faut quoi ? Il faut rentrer dans une forme de posture de combat, c'est ça ? Ou il faut...
Mais on y est dans le combat. Et surtout, il ne faut pas nier le combat.
Ah, expliciter peut-être
ce
qu'est ce combat, parce qu'il y a un combat spirituel, il y a un combat humain, enfin...
Moi, je ne sais pas si on peut vraiment distinguer les deux. Je crois que tous les combats humains ont une dimension spirituelle et que tous les combats spirituels ont une profonde dimension humaine. Et les deux sont liés. Ce que je crois, c'est que la foi apporte un élément de force pour vivre ces combats et surtout les vivre de manière positive. Et les voir comme des occasions peut-être de grandir et, c'est le cas de Jacob, de devenir soi-même. Et Jacob ne va devenir Israël, puisque c'est le patriarche d'Israël, mais il ne va recevoir ce nom qu'au terme de tout un tas de combats précisément, de toute une série d'épisodes et de luttes. Et donc il ne devient lui-même que suite à une série de luttes et de combats, et ça n'arrête pas pour autant d'ailleurs cette dimension de lutte et de combat, mais désormais il va les vivre autrement.
Voilà, on va faire une deuxième pause musicale. Je rappelle les dates de cette prochaine session sur les combats de Jacob avec vous, Père Jean-Michel Poirier, à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales, les 27 et 28 avril prochains. On fait une deuxième pause et puis on va parler de du fameux, cette fois, combat de Jacob, sa lutte avec Dieu ou avec un ange.
Présence à Salis du Salat, 94.1.
Cette émission ce matin donc sur le combat de Jacob avec le père Jean-Michel Poirier. Si vous nous prenez en cours de route, je vous rappelle qu'il est exégète et maître de conférence à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales, où se tiendra les 27 et 28 avril prochains une session intitulée « Les combats de Jacob ». Alors, comment ne pas parler dans cette dernière partie d'émission du combat de Jacob? Alors, on appelait ça le combat avec l'ange ou la lutte avec Dieu. On va peut-être commencer par raconter ce qui se passe. Alors, je vais le faire et puis vous allez compléter. Et puis après, on va commencer à essayer d'expliciter quelle signification ça peut avoir, même si on imagine bien qu'on pourrait y passer plusieurs heures. Mais comme ça mettra l'eau à la bouche des auditeurs pour venir à cette session. Donc, Jacob, retourne dans son pays après être devenu, d'une certaine manière, un patriarche, s'être enrichi, avoir eu donc ses deux épouses, Rachel et Léa, et donc 12 enfants, c'est ça. Il se dirige vers le pays de son père avec son troupeau et ses femmes et ses enfants. Il craint en fait la rencontre avec Ésaü, se disant donc que son frère risque d'avoir énormément de haine à son égard et donc de vouloir lui faire la peau, quoi, pour parler très très vulgairement, très simplement. Et donc pendant une nuit, il va prier. Et priant, en fait, il se met à lutter avec un homme, un personnage étrange. Il ne sait pas trop qui c'est. Lutte acharnée toute la nuit et au petit jour, si je ne me trompe pas, ce personnage se révèle être un ange ou Dieu. Enfin, on ne sait pas trop. Que faut-il voir? Alors, passage extrêmement connu, enfin, peut-être pas du grand public, mais très connu, en tout cas pour les chrétiens et pas que, dans les Écritures, représenté par de très nombreux peintres et qui reste assez mystérieux. Alors, comment vous compléteriez d'abord le descriptif avant qu'on essaye d'en voir la signification? Père Jean-Michel Poirier.
Alors, tout d'abord, vous avez dit que c'était une expérience de prière. C'est pas tout à fait comme ça que ça nous est présenté. En fait, il essaie de mettre à l'abri, en quelque sorte, sa famille et une partie de ses troupeaux en vue d'un possible affrontement avec son frère Ésaü. Mais vous avez bien fait de dire que, effectivement, il y a derrière la perspective avec Ésaü, la rencontre avec Ésaü, dont on ne sait pas ce que ça peut donner. Est-ce que ça va être une rencontre...
Ça peut être un massacre, enfin.
Ça peut être un massacre, ça peut être une rencontre violente. Alors, il fait passer tout le monde. Alors, c'est intéressant, c'est une expérience de passage, là. Il fait passer un fleuve, hein, qui s'appelle le Yabok. Alors, il va y avoir un verbe qui va consonner avec Yabok, le verbe lutter. Hein. Et un professeur dont je veux saluer ici la mémoire, un professeur qui était professeur au Mirail et qui est décédé aujourd'hui, Robert Coufignal, professeur de littérature, avait beaucoup écrit sur ce texte et traduisait pour entendre les sons Jacob boxa au Yabok. Parce qu'il y a une consonance entre le nom de Jacob, entre le verbe qui veut dire lutter, et puis le nom même de la rivière où ça se passe. Et donc, il se retrouve seul sur une des deux rives, et c'est une expérience qui se passe pendant la nuit. Alors tout cela, effectivement, donne déjà, vous voyez, une aura à cet épisode assez mystérieuse. Ça se passe de nuit, il est seul, et on est près on est au bord d'une rivière, et on est près d'un lieu de passage. Donc c'est vraiment une expérience de passage. Et là, il va lutter avec quelqu'un. Alors vous avez dit un ange, en fait c'est le prophète Osée qui parle d'un combat avec un ange. Mais jamais le livre de la Genèse ne parle d'un ange. Ici, il parle de quelqu'un. Alors c'est un mot, vous voyez, hébreu, ish, qu'on peut traduire par un homme. Mais ça peut être aussi quelqu'un. Et il lutte avec quelqu'un. Et au début, il ne sait pas qui il est. Puis nous, le lecteur, on ne sait pas quel est cet adversaire. Est-ce que c'est Ésaü? Est-ce que c'est un envoyé d'Ésaü? Est-ce que c'est un démon qui garde la rivière? Est-ce que c'est pas quelque part aussi un combat imaginaire où il se combat lui-même? Est-ce que c'est pas un araméen qui l'a fui, qui le rattrape? On ne sait pas qui c'est. Et finalement, ce n'est que progressivement qu'on va découvrir que ce personnage, il a aussi un caractère divin. D'abord parce que Jacob demande qu'il se défend bien, hein. Jacob demande à cet être qui combat avec lui et qui lui dit de le laisser partir parce que le jour va pointer. Il lui demande de le bénir. Alors, si Jacob demande de le bénir, on peut penser qu'il pense que c'est une personne qui, effectivement, a une capacité de bénédiction. Et puis, d'autre part, il va, ce personnage va lui donner donc ce nom. Hein. Lui dit, quel est ton nom? Alors, Jacob répond, Jacob. Et le personnage va lui dire, ce n'est pas Jacob qui sera encore employé pour ton nom, mais Israël, car tu t'es battu avec Dieu et avec les hommes, et tu as prévalu. Alors ça, c'est, si vous voulez, ça a provoqué mais des masses de commentaires. Non seulement parce que, pour commenter le nom d'Israël, mais comment Jacob peut-il se battre, d'abord, où et quand s'est-il battu avec Dieu ? Il s'est battu avec les hommes, ça on le sait. On l'a entendu, on nous l'a raconté.
Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui demande qu'on le combatte pour nous bénir d'une certaine manière ?
Oui, il ne demande pas forcément qu'on le combatte, mais aussi quelque chose de... Il a combattu avec Dieu et avec les hommes, il a prévalu. Alors comment un homme peut combattre Dieu et prévaloir sur Dieu ? Mais c'est scandaleux.
Alors, pour lancer la discussion, qui hélas sera un peu courte, mais on vous réinvitera, et puis il faut aller à la session de
l'IRP,
je citerai un passage d'un ouvrage de Mgr Legal, donc archevêque de Toulouse, « Les premiers amis de Dieu », où il parle donc entre autres d'Abraham, de Jacob et de Moïse, et il dit à propos de Jacob la chose suivante de cette lutte, « il est un moment dans nos existences où il faut, au-delà de toutes les apparences, affronter Dieu et son mystère. La lutte avec Dieu est pour chacun un jour ou l'autre, et c'est une bénédiction. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Je crois que l'expérience croyante revêt bien souvent, peut revêtir en tout cas, l'aspect d'un combat avec Dieu. Et c'est pas simplement Jacob qui vit ça, mais lorsqu'on regarde en fait les textes, même Moïse, même Abraham, quelque part, qui se sont confrontés avec la volonté divine, en tout cas, avec la volonté divine. Regardez les psaumes. Et même d'une certaine manière, Jésus sur la croix, lorsqu'il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Là, on est à des sommets, si vous voulez, de profondeur mystique. Et Dieu permet en tout cas qu'on puisse le combattre. Et ça, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Et on a l'impression que Dieu ne se révèle vraiment qu'à des gens qui se confrontent avec lui. Et donc là, je crois qu'il y a vraiment un message pour aujourd'hui et pour tous nos contemporains. On a affaire à... Enfin, aujourd'hui, on dit on est face à une incroyance ou alors des gens qui vous disent « Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ton Dieu parce que ton Dieu... » Voilà, on se combat. On a quelque part, même l'athée, il combat Dieu. Il y a l'indifférent, lui, il n'en a rien à faire. Mais l'athée, il combat Dieu. Mais pour avoir la véritable révélation... Quelque part, il faut combattre Dieu, ou en tout cas peut-être combattre certaines images que l'on se fait de Dieu. Et ce que nous dit ce texte aussi, c'est que Dieu n'est jamais tout à fait l'image qu'on se fait de lui. Et qu'il nous surprend toujours. Et puis l'autre aspect dans ce combat qui, moi, me touche beaucoup, c'est que Jacob est blessé, il est déboîté. Il va repartir boiteux. Or, lorsqu'on regarde l'arc de tension du cycle, c'est à ce moment-là où il s'ajuste vraiment à lui-même, où il devient celui qu'il devait être, puisque c'est à ce moment-là qu'il reçoit le nom d'Israël. Et là aussi, vous avez un sacré paradoxe. Il devient lui-même en étant blessé, il est ajusté à lui-même en étant déboîté. Et ça, c'est tout le mystère de la foi, du combat mystique. C'est peut-être lorsqu'on a le sentiment que rien ne va plus, qu'en réalité les choses se mettent en place. C'est peut-être dans l'échec... On va découvrir qui on est. Et là, c'est au cœur de la nuit que Jacob va naître enfin au jour, puisque au terme de l'épisode, le soleil se lève pour lui.
Alors, ça donne envie d'aller à la session, mais peut-être une dernière question, c'est que à l'issue de ce combat, Dieu donne un nouveau nom en fait à Jacob. Est-ce à dire que pour nous tous, fruit au terme de ce combat, à un moment, Dieu peut comme nous donner un nouveau nom, et qu'est-ce que ça signifie en fait ?
Ah bah oui, vous avez tous ensuite toute une grande tradition qui va même jusqu'à dire que nous avons tous un nom secret qui ne nous sera révélé qu'au terme de notre existence. Alors en réalité, il faut comprendre que dans ce type de culture, comme Israël, le nom a une grande importance. Nous, on donne des noms presque décoratifs, hein, alors que le nom signifie la personne, il est la personne. Et donc, si on change de nom, jusqu'à présent, il avait été le lutteur, le talonneur, aussi quelque part le trompeur, c'est une des étymologies aussi qu'Ésaü lui donne, et désormais il va avoir un nom d'abord qui fait référence à Dieu, puisque Israël, car tu t'es battu avec Israël, ça peut signifier soit Dieu s'est battu, soit tu t'es battu contre Dieu. En fait, en réalité, ça veut plutôt dire Dieu s'est battu. Voilà. Et
je croyais que ça voulait dire aussi tu as été fort contre. Dieu
s'est battu et Dieu est fort. Enfin, voilà, c'est les deux notions. Mais on peut comprendre aussi que il s'est battu contre Dieu et donc il reçoit un nom qui porte la marque de cette relation avec Dieu.
Mais
jusqu'alors, si vous voulez, ce qui avait été le but de son existence, c'est d'être lui-même et d'être le premier. Et il s'était battu pour ça, être le premier, enfin avoir... Et là, il va comprendre que tout le sens de son existence, c'est de laisser Dieu passer en premier. Et que désormais, son existence n'aura de sens que par rapport à une bénédiction qui vient de bien plus haut que lui, qui va descendre bien plus loin que lui, qui doit tout se mettre entièrement au service d'un projet qui n'est pas le sien, qui est le projet de Dieu.
Alors pour conclure, mais il nous reste quand même 2 minutes, je citerai une catéchèse, je crois, qu'a donné le pape Benoît XVI, qui s'appelle sur l'école de prière, citant le combat de Jacob, disant que en fait Jacob pensait tout contrôler d'une certaine manière et un peu comme arracher une forme de bénédiction en fait à la force du poignet. Et puis ce passage donc du combat, le pape Benoît XVI dit ça, que cette bénédiction de Dieu qui ne peut être arrachée ou gagnée en comptant sur nos forces, mais qui doit être reçue avec humilité de lui, donc de Dieu, comme un don gratuit qui permet enfin de reconnaître le visage du Seigneur. C'est-à-dire que Jacob découvre en fait qui est vraiment Dieu.
Et je dirais que de ce point de vue-là, il préfigure le Christ. Le moment où Jésus nous révèle vraiment qui est Dieu, c'est là, alors qu'il est sur la croix et qu'il ne peut plus rien faire, qu'il ne peut quasiment plus rien dire et qu'il apparaît totalement impuissant. Et c'est à ce moment-là qu'il nous révèle vraiment et qui est Dieu et qui est l'homme. Et de ce point de vue-là, on peut dire que ce combat de Jacob prépare et préfigure le combat de la croix.
Voilà, et ben merci beaucoup Père Jean-Michel Poirier, ça donne envie d'aller suivre la session. Moi je pourrais pas, hélas, parce que je travaille, mais au moins vous serez venu dans ces studios ce matin. Je rappelle donc cette session à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales à Toulouse, les 27 et 28 avril prochains. Merci beaucoup.
Avec joie.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.